Bonsoir. Sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila sous la gouvernance du pays. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC. Initiative de paix de la SADC et de l'EAC. Démarche des évêques. Rencontre entre Félix Tshisekedi Tshilombo et les membres de l'Union sacrée de la nation. Autant de thèmes essentiels sur lesquels vous avez des questions, des inquiétudes et des propositions. Pour en parler, nous recevons Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Il répondra à toutes vos questions en direct en Mbujimayi dans la province du Kasaï Oriental. Vous nous suivez sous la 93.8. Si vous êtes en dehors de la RDC, vous pouvez réagir et commenter en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Bonsoir.
Bonsoir, madame qui m'écoutez. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous intervenez depuis la Suisse, hein, où vous participez à la 58e session du Conseil de droits humains à Genève. La RDC est représentée par la première ministre Judith Suminois, qui est intervenue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son adresse, monsieur le ministre?
Ce qu'on peut retenir de son adresse, c'est d'abord une demande pressante, des sanctions claires, plus robustes contre le Rwanda, pour qu'il retire ses troupes de notre territoire et pour permettre l'établissement d'un couloir humanitaire très très rapidement, parce que nous devons être en mesure d'intervenir sur place. Vous savez que si vous suivez les chiffres du ministère de Mines, du ministère de la Santé plutôt, nous avons aujourd'hui plus de 7000 morts. Il y a au moins 1500 morts qui sont encore dans les morgues et plus de 4000 blessés qui ont besoin d'être secourus rapidement. Et nous avons besoin sur place de nous assurer que nos soldats qui sont à la MONUSCO puissent être en mesure de quitter cet endroit, mais aussi et surtout d'apporter la sécurité dans une ville de Goma traumatisée, non seulement par les événements passés, mais aussi par les événements quotidiens, parce que la réponse à la moindre contestation, le moindre saut d'humeur se termine par mort d'homme. Nous avons encore déploré les événements de Katoy ce week-end, et donc il est très très urgent que le monde puisse réagir aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo pour que ceci s'arrête. Et la première ministre a été claire sur ce point. Évidemment, elle a eu aussi l'occasion de rappeler nos engagements, notamment en termes de protection des climats et d'autres droits, pour nous assurer que nous, République démocratique du Congo, nous apportons aussi notre part des lumières dans les débats en cours sur la situation générale des droits de l'homme. En parallèle, elle a eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de Nations Unies, Antonio Guterres, mais aussi les directeurs du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour parler des problématiques spécifiques. Voilà ce que je peux dire en liminaire à ces propos.
Retournons en RDC, monsieur le ministre, où l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire et humanitaire très très préoccupante dans la partie orientale de la RDC. Plusieurs personnalités se sont exprimées sur la question, et la dernière réaction en date est celle de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui est sorti de son silence au cours d'une interview accordée aux médias sud-africains Sunday Times. Dimanche 23 février, Joseph Kabila, ex-président de la RDC, estime que la crise qui sévit au pays est liée principalement à la mauvaise gouvernance de son successeur, Félix Tshisekedi, et que cette crise, qui remonte à 2021, selon lui, est à la fois sécuritaire et humanitaire, mais surtout politique, sociale, morale et éthique. Votre réaction?
Écoutez, il est plutôt coutumier du silence. Je crois qu'il aurait mieux valu pour lui de rester dans cette posture, parce que ce qu'il a dit n'aurait jamais valu plus que son silence. Mais quoi qu'il en soit, c'est un dévoilement qui vient confirmer ce que le président de la République a dit depuis plusieurs mois. De toute évidence, dans des circonstances aussi graves, le premier mot qui devrait sortir de lui devrait être, à mon avis, deux mots de compassion, de solidarité et de condamnation de toutes les violences que subissent nos populations depuis les débuts de cette agression rwandaise. C'est ça le plus important, c'est ce qu'on aurait pu entendre de lui, parce que ce qui a été dit, c'est les reniements de tout ce que lui disait les auteurs du conflit actuel. Quoi qu'il en soit, nous, nous travaillons plutôt à apporter des réponses sur qu'est-ce que lui aurait pu régler à l'époque, mais cela ne l'a pas été, et nous, nous sommes plutôt déterminés à nous assurer, aux côtés des populations congolaises, que nous apportons des solutions durables. Mais pour le reste, je ne ferai pas plus de commentaires. Je crois que vous avez vu comment les Congolais ont réagi dans leur grande majorité. Et c'est juste dommage de voir que ceux qui l'ont condamné hier, qui sont en mesure aujourd'hui de considérer que c'est un combat légitime qui vient légitimer, passez-moi l'expression, des massacres quotidien que vous voyez, des assassinats, des viols, les pillages systématiques de ressources. Et je crois que le pacte républicain dont il a parlé, le premier tueur du pacte républicain, c'est ceux qui mettent en mal l'intégrité du territoire, et c'est tous ceux qui sont leurs complices aujourd'hui, et de lui, on devait d'abord entendre la condamnation de ceux-là, parce que pour parler de pacte républicain, il faut s'assurer que la République soit unie. Et en l'occurrence, l'unité de la République est menacée. Il n'y a pas de place pour la politique politicienne. Et qu'ici, malheureusement, les Congolais n'auraient jamais dû lire ses écrits venant de lui.
Alors, Patrick Muyaya, vous dites que cette sortie vient confirmer ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait dit. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Écoutez, je n'ai pas besoin de vous rafraîchir la mémoire. Le président de la République, en décrivant lorsqu'on est en Minique la nature de l'opposition que nous avons aujourd'hui, il avait parlé d'une opposition militaire. Mais moi, je n'ai pas entendu, lu plutôt, une quelconque forme de condamnation. Au contraire, c'est une justification du mouvement terroriste qui tue et qui pille. Et lorsqu'on pense que c'est légitime et que c'est cela les aspirations du peuple congolais, je me suis même interrogé que si c'était vraiment lui qui l'a endossé, lorsque je regarde les agressions que nous avons connues sous sa présidence et comment il y avait réagi.
Ça veut dire que, on va répéter les termes de Félix Tshisekedi, en Allemagne, il avait dit que Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila qui est derrière le M23. Vous confirmez, donc vous pensez aussi que cette sortie confirme qu'il est réellement derrière la rébellion du M23.
Écoutez, c'était pas la première fois que le président de la République le dise. Le président de la République, c'est l'homme le plus informé de la République. Et je crois qu'il y a eu des réactions des Congolais qui en disent non, parce qu'ils se sont fait aussi leur opinion, et c'est bien clair.
Alors, on va vous garder en ligne, Patrick Muyaya, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions des auditeurs qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Okapi, la chaîne YouTube et même le compte X de Radio Okapi. Monsieur le ministre, le président, on va rester encore un peu sur la déclaration du président Joseph Kabila, voilà, qui a parlé des reculs de la démocratie, voilà, et qui a parlé du musellement de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, écoutez, je suis désolé, mais je ne pense pas que j'aurai beaucoup de temps à rester sur ces sujets. C'est pas plus important que le travail que nous faisons aujourd'hui pour nous assurer justement que nous mettons fin aux aventures rwandaises qui durent depuis 30 ans. J'ai pas besoin de rappeler les événements, les agressions successives qui commencent depuis 96, vous connaissez l'histoire. Et donc aujourd'hui, nous, les problèmes, nous les avons trouvés et nous travaillons à les régler au quotidien. Vous savez, madame, pour vous donner un exemple concret, la gratuité de l'enseignement était couchée dans la Constitution qui a été publiée le 18 février 2006, mais il fallait attendre 2019 pour commencer l'application. Aujourd'hui, nous parlons de couverture santé universelle, nous parlons de 145 territoires, nous parlons de construction de rocades, nous commençons à redorer fortement le blason de notre diplomatie. Je crois que ce sont là les sujets essentiels sur lesquels on devait nous focaliser et ne pas nous laisser distraire par une opinion qui a été librement exprimée, parce que vous savez, en République démocratique du Congo, la liberté c'est aussi la règle, c'est aussi à travers elle que la démocratie respire, et donc il faut bien laisser tout le monde donner son opinion, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est cela la démocratie. Et c'est ce qui sévit chez nous.
Alors, puisque vous parlez de diplomatie, monsieur le ministre Patrick Muyaya, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité vendredi 21 février une résolution condamnant directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC, réclamant ainsi le retrait immédiat de ce troupe. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Union européenne aussi de réclamer ce retrait immédiat, l'Union européenne qui a suspendu aussi quelques relations dans le domaine de la défense avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces sanctions sont les résultats de la diplomatie congolaise? Peut-on parler de victoire de la RDC?
Évidemment, non. De toute façon, nous, on va pas nous satisfaire de ces premières mesures qui arrivent, simplement parce que nous avons la responsabilité aujourd'hui de libérer nos populations qui sont sous occupation et qui quotidiennement font le frais des envahisseurs et des agresseurs. Et c'est bien que toutes ces institutions commencent à bouger, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, nous avons besoin que nos populations puissent être libres. Nous avons besoin de rouvrir les aéroports de Goma, de Bukavu, nous assurer que nous apportons le soutien qu'il faut à nos populations. Et nous pensons que ceux qui sont dans les autres institutions, notamment les Nations Unies, qui veillent au respect du droit international, doivent s'assurer que très très vite, cette situation d'agression s'arrête et qu'il faudrait bien qu'il y ait des sanctions plus robustes. Mais ceci dit, comme nous les disons régulièrement, nous avons sur cette guerre plusieurs fronts, et les fronts diplomatiques donnent ses premiers résultats, et nous allons continuer dans ce sens-là en combinant évidemment avec tous les autres fronts pour nous assurer que nous atteignons les objectifs que nous souhaitons, celui de restaurer rapidement la paix, et l'ordre et la sécurité dans les parties du pays qui sont sous occupation.
Après toutes ces condamnations, que ce soit du Conseil de sécurité, de l'ONU, de l'Union européenne, de certains présidents des pays africains et même de l'Union africaine, sur le terrain, on ne sent pas l'impact de ces condamnations. Il y a eu des résolutions. Monsieur le ministre, comment pensez-vous que ces résolutions peuvent être appliqué sur les terrains, ou qu'est-ce que le gouvernement de la RDC devrait faire de plus pour faire appliquer ces résolutions?
Écoutez, il y a une responsabilité qui nous revient, mais il y a une responsabilité qui revient aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, qui est l'institution garante de la sécurité internationale, de questions de paix et de sécurité. Il y a des processus régionaux qui sont engagés. Vous savez qu'il y a eu le sommet EAC-SADC qui s'est tenu il y a quelques jours à Dar es Salaam, et que dans sa suite, il y a des chefs d'état-major généraux des différents pays qui se sont réunis. Et parce que vous savez que pour nous, la priorité, d'abord, c'est les cessez-le-feu immédiat, la cessation des hostilités. Ensuite, voir comment on libère Goma, on libère les voies d'accès au tour, on soulage l'aéroport et on crée ce corridor humanitaire. Donc, je crois qu'il y a des militaires qui se sont réunis. Ils feront le point au ministre dans 4 jours. Et donc après, il y aura des dispositions qui en ressortiront, qui nous permettront très rapidement de nous assurer que ce qui avait été convenu par les chefs d'État de la région comme plan puisse se mettre en application pour que très rapidement, par exemple, nous puissions intervenir au plan humanitaire et nous assurer que nos populations déplacées qu'on a jetées en errance puissent avoir un abri et que nous puissions nous assurer que l'école, l'université, que les activités reprennent normalement dans les villes sous occupation.
Puisque vous parlez de l'EAC et de la SADC, lors du sommet conjoint de ces deux organisations africaines, monsieur le ministre, il était demandé à la RDC de dialoguer directement avec les groupes armés, y compris le M23. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, maintient sa position de ne pas échanger, de ne pas parler ou dialoguer avec le M23. Est-ce que cela ne constitue pas un blocage dans le processus des règlements pacifiques crise?
D'abord, il faut rectifier votre question. Je ne pense pas qu'on a dit dans les différentes résolutions qu'il fallait dialoguer.
Parmi les recommandations du sommet conjoint, il était demandé plutôt
de se référer au cadre déjà établi. Le processus d'une part de Nairobi et d'autre part les processus de Luanda. Donc aujourd'hui d'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure que des médiateurs ont été désignés qui viendront renforcer ceux qui y travaillent pour nous assurer que les deux pôles des discussions pour régler la crise fonctionnent normalement. Ceci dit, nous n'avons jamais refusé les dialogues, mais on a simplement dit qu'on ne dialoguerait pas directement avec le groupe armé et que c'était le travail du médiateur du président Uhuru Kenyatta de s'en assurer. Mais quoi qu'il en soit, Madame Kelinkute, lorsque le président Kenyatta terminera ses discussions avec les groupes armés, y compris le M23, il reversera le rapport au gouvernement et le gouvernement pourra en ce moment-là tirer les conséquences qu'il faut pour gérer et s'assurer des questions des démobilisations et tout ce que cela comportera. Parce que depuis le premier jour de ces conflits, du côté du gouvernement, les experts sont prêts. On était à Luanda jusqu'au 15. Vous avez vu le dernier jour, vous savez que le président rwandais n'est pas venu et vous avez vu ce qui s'en est suivi. Et donc il faut s'assurer que nous, comme gouvernement, nous sommes pleinement disposés pour autant que les choses se passent dans le cadre de ce qui a été établi. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas récompenser ceux qui ont le plus tué des Congolais, ceux qui ont le plus massacré de Congolais. C'est une question de principe, je pense, que qui est compréhensible de tous. Mais ceci dit, le président, ce qu'il a dit et répété aussi samedi, c'est dire sa disponibilité à travailler pour la restauration de la paix de la RDC avec tous ceux qui veulent véritablement la paix en RDC et ceux qui ne viendront pas porter les agendas de nos ennemis avec lesquels ils discutent déjà dans le cadre du processus de Luanda. Donc cela doit être bien clair et cela ne devrait être nullement être interprété comme un point de blocage, mais plutôt comme le respect des boussoles qui ont été prévues depuis le début de ces différents processus.
Reste en ligne, monsieur. Le ministre, on va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreux Congolais qui nous appellent de partout en RDC. On va aller à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter Paulin Senga.
C'est maître Paulin Sengangabo. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Les questions que je vais poser à monsieur le porte-parole du gouvernement. Si la solution diplomatique échoue et que le gouvernement congolais continue à refuser de dialoguer avec les rebelles du M23, quelles seraient d'autres solutions que le gouvernement va entamer aussi longtemps que si les champs de bataille, les phares d'essai ne combattent presque plus, mais elles ne font que des replis stratégiques? Jusqu'à quand le gouvernement donnera le bilan des militaires congolais tombés sur les champs de bataille, précisément dans la ville de Goma, et ceux qui ont été capturés par les rebelles du M23? Quel est le sort réservé aux généraux ayant fui les combats à Goma, tout en laissant les militaires et seuls, sans assistance, avant même que les rebelles du M23 arrivent à Goma? Merci.
Monsieur le ministre, vous avez là plusieurs préoccupations qui vient de Paulin Senga, de Kisangani.
Écoutez, la solution, si la solution diplomatique échoue, le président de la République, je pense qu'il a dit au New York Times, hein, si la solution diplomatique échoue, nous avons les fronts militaires et les autres différents fronts auxquels nous recourons pour revenir à la paix, restaurer la quiétude et la sérénité. Vous avez aussi suivi le président qui a salué l'action et le patriotisme de nos militaires qui se sont pleinement mobilisés au-delà des brebis galeuses et des cas de dérapage que l'on a notés et pour lesquels des conséquences ont déjà été tirées. Il faut saluer la bravoure de ces jeunes qui s'engagent au prix de leur sang pour préserver ce que nous avons des plus précieux. Et je pense que la guerre est montée en intensité justement parce qu'il y a cette détermination de nos jeunes qui ont infligé des pertes énormes à l'ennemi, mais qui n'est pas en mesure de les montrer parce que justement, c'est pas dans sa tradition, dans le cadre de l'empire du mensonge, mais nous sommes plutôt déterminés à renforcer nos phares d'essai. Le président de la République nous l'a dit au Conseil des ministres de vendredi qu'il allait, que le gouvernement travaillait d'abord à doubler les revenus de nos militaires.
Est-ce qu'il fallait attendre que cette situation arrive
à leur famille pour voir?
Il fallait attendre que cette situation arrive pour penser à doubler les salaires de nos militaires.
Je pense que depuis les débuts du mandat du président de la République, du premier mandat, s'il y a une question qui est prioritaire et qui vient avant toutes les autres, c'est la question de la sécurité, et au centre, c'est la question de nos militaires. Je ne voudrais pas revenir ici sur l'état dans lequel il a hérité de cette armée, pour ne pas revenir sur ce que nous disions en début de cette émission. Nous, on n'est pas
le
là
chef
pour
avait déclaré un passé avoir difficile. Trouvé. Il avait déclaré avoir trouvé une armée structurée.
Vous dites?
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait déclaré avoir trouvé une armée structurée.
Écoutez, moi, je voudrais pas revenir dans des mots, mais lorsque nous étions à Bounia, on a constaté qu'on avait annoncé des effectifs qu'il n'y avait pas. Et tout ça, c'est des questions qui, pour nous, les gouvernements, nous travaillons à donner des réponses. Pour la première fois dans ce pays, nous avons une loi de programmation où nous nous assurons chaque mois que nous donnons l'enveloppe qu'il faut, mais qui n'est pas assez par rapport à la taille du pays pour notre armée. Et c'est plutôt dans ça que nous travaillons. Donc l'avenir est toujours beaucoup plus important qu'elle est passée, pour autant qu'on arrive à tirer pleinement les conséquences de ce qui s'est passé. Vous avez des cas de trahison, des cas d'infiltration, des par la structuration déjà de cette armée post-97. Vous savez qui a dirigé l'armée à l'époque et quelles sont les graines du mal qui ont été semées. Aujourd'hui, ces graines, on les extirpe progressivement et on va reconstruire. Alors, pour ce qui concerne les sorts de ceux qui étaient des commandants à Goma, Je crois que pour la plupart, ils sont à Kinshasa et je crois qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour s'assurer qu'on tire les conséquences de ce qu'a été leur attitude sur le terrain des opérations. Et donc, pour nous, nous continuons de travailler à assurer la montée en puissance de nos forces armées. Mais Madame Kelly, il y a un point important sur lequel le président de la République est revenu au cours de la réunion du samedi, c'est le point de la mobilisation. Parce que cette guerre, c'est une guerre populaire. Ça veut dire que chaque Congolais, où il est, avec son stylo, avec son micro, avec sa guitare, sont des soldats pour la défense de la République. Et à ces jours, nous sommes plutôt heureux de voir les niveaux de mobilisation des Congolais qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'intérieur du pays, qui expriment leur solidarité par rapport à nos populations touchées à Goma, Bukavu et dans les autres coins, et qui montrent leur disponibilité à soutenir et certains à joindre les forces armées, c'est dire que notre cause est juste et dans l'unité, nous allons réussir à relever les défis, à relever l'affront, comme le président le disait à Munich. Et dans cette foulée, il faut qu'on fasse très attention avec les démons de la division qui est distillée à travers le poison rwandais, constitutif des désinformations, de mensonges, de mésinformations, dans les stricts objectifs de nous fragiliser et de nous diviser en ce moment où nous voulons construire l'unité nationale autour de nos forces armées et du président de la République pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays.
Vous êtes des milliers à nous suivre de partout. Monsieur le ministre, il y a Anselme Amani qui veut savoir quelles sont les démarches qui sont mises en œuvre pour sauver la vie des militaires qui traînent encore à la MONUSCO.
Je le disais en début de cette édition, la première ministre a eu l'occasion de discuter avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à propos. Et nous discutons à Kinshasa avec la MONUSCO. Il y a des commissions qui ont été mises en place, qui travaillent quotidiennement sur la question, parce qu'il faut s'assurer que nous puissions les évacuer. Et parce que vous voyez qu'on organise par l'occupant des manifestations sur les sièges de la MONUSCO dans les stricts objectifs de semer les troubles et mettre la main sur nos militaires, ce qui est totalement contraire aux conventions internationales en la matière. Mais quoi qu'il en soit, la réunion à laquelle participe notre chef d'état-major général ressortiront de mesures qui permettront très rapidement de régler ces questions-là. Et ce sera combiné évidemment avec le travail qui est fait en interne avec la MONUSCO.
Angèle BHT, voilà, vous dit ceci, hein, aujourd'hui la FCM 23 est en train de recruter les jeunes pour intégrer l'armée. Si le Rwanda retire ses troupes de l'est du pays, cette nouvelle armée ne sera pas rwandaise mais congolaise. Est-ce que le gouvernement est au courant de cette situation et qu'est-ce qu'il en pense?
Nous savons justement qu'il y a des recrutements forcés sous la contrainte et parfois on recourt à la gâchette pour refuser, pour mater tous ceux qui refusent de se joindre à cette aventure sans lendemain. Mais je crois que nous sommes conscients de cette situation et d'autres situations et nous travaillons, nous, à y apporter une réponse pérenne. De toute évidence, nous savons que les forces supplétives terroristes que vous avez citées n'auront jamais atteint la position qu'ils ont atteint sans l'armée rwandaise qui en réalité opère et les supplétifs ne viennent qu'en appui d'une armée régulière. Et donc ce qui va arriver, c'est que pour nous, les Rwandais resteront aux commandes. Nous connaissons les méthodes et que quoi qu'il en soit, le Rwanda, comme la résolution 2773 le suppose et toutes les autres décisions, doit se retirer de notre territoire et cesser toute forme de soutien à ses supplétifs pour permettre justement que les processus de Luanda et de Nairobi puissent apporter des réponses durables à un conflit qui risque de dégénérer sur la région.
Alors, on va prendre cette dernière réaction avant de passer à un autre point hein, de l'émission de ce soir. Jackson Kisangani dit ceci, la population souhaite que le gouvernement assure une meilleure protection des frontières et une autonomie dans la gestion des conflits sans trop dépendre de l'étranger.
Bah, écoutez, la meilleure protection des frontières.
La RDC dépend trop de l'étranger, de l'extérieur.
Non, la question n'est pas celle-là. Il faut savoir que nous ne vivons pas dans un îlot. Nous appartenons à des communautés, notamment les communautés régionales dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi dans la grande organisation qui s'appelle les Nations Unies. Et qu'il ne faudrait pas considérer que l'implication de ces organisations, parce que le conflit en RDC a des conséquences dans les autres pays de la région et même au niveau mondial. Donc il ne faut pas considérer que l'implication de ces institutions est la condition sine qua non ou la stratégie sur laquelle nous misons pour régler les problèmes. Non. La réponse à cette crise, Madame Kelly, doit venir collectivement de tous les Congolais. Ainsi que nous le disions, aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, le vice-premier ministre du Transport ou de la Défense circuler dans le pays et demander aux jeunes de s'enrôler dans l'armée et dans les services. Et parce qu'évidemment, il faut que nous ayons beaucoup de jeunes qui nous permettent de sécuriser nos 10 000 kilomètres de frontières et tout ce que nous avons comme ressources. Et ici, nous travaillons à reconstruire plutôt l'État dans sa dimension leur régalienne en termes d'armée, de justice et d'administration. Après plusieurs décennies où des questions de fond n'ont pas été réglées, je ne voudrais pas ici regarder les uns les autres. Nous assumons le passif que nous avons trouvé et avec le président Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa, nous travaillons à apporter des réponses pérennes. Ça prend du temps au regard de la complexité du pays. Mais notre volonté est claire et c'est pour ça que nous voulons dire à nos jeunes, partout où ils se trouvent, qu'ils s'élèvent et qu'ils rejoignent la dynamique de la défense de la patrie, parce que c'est avec eux que nous en assurerons la défense, mais aussi c'est avec ces jeunes que nous serons en mesure d'avoir d'autres services de sécurité avec plus de personnel qui nous permettront de nous assurer que chaque coin de notre pays est protégé.
À l'interne, des initiatives sont prises hein, pour essayer de trouver des solutions à la crise que traverse la RDC aujourd'hui. C'est notamment la démarche des évêques de la CENCO et des LCC qui consultent certaines personnalités du pays hein, pour essayer de discuter, échanger sur quelle voie prendre ou suivre pour réunir les fils et filles du Congo afin de trouver une solution hein, à la crise, comme je l'ai dit. Monsieur le porte-parole, Patrick Muyaya, on a l'impression que cette démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC ne plaît pas trop au gouvernement central. Je peux me tromper, mais c'est l'impression vraiment qu'on a. On entend des critiques de part et d'autre par rapport à cette démarche. Qui vous dérange ou vous gêne?
Je pense que vous vous trompez. Parce que, en quoi une initiative qui vise la restauration de la paix doit être mal perçue? Le président de la République a reçu les prêtres à leur initiative. Ils lui ont parlé de ce qu'il comptait faire. Et lorsque nous avons dit ou précisé qu'ils n'avaient pas reçu le mandat du président de la République, nous avons vu beaucoup de réactions. Mais je pense que l'initiative venue d'eux est différente d'avoir un mandat du président de la République, premièrement. Deuxièmement, avant même que je ne revienne dans le contenu de cette démarche, mais il y a un mal qui doit être nommé. Le mal, c'est le Rwanda. Les mâles, c'est les supplétifs du Rwanda, qui ont tué des milliers de Congolais. On n'a pas fini de les dénombrer, on n'a pas fini de les enterrer, comme la première ministre a dit tout à l'heure. Moi, je n'ai lu aucune part une condamnation ferme et claire de ces mâles. Vous savez, Madame Kelly, de mémoire de journaliste ou comme d'acteur, il y a toujours eu, de la part de l'Église, une sévérité. L'Église n'a jamais fait d'économie de mots quand il faut dénoncer les mâles. Et ces mâles, il n'est pas dénoncé. J'étais particulièrement choqué hier de voir les communiqués de l'abbé Chollet qui parle des stigmatisations de swahiliphones, tel qu'il en parle. C'était choquant parce que il faisait le relais d'une rumeur d'un poison rwandais distillé dans l'objectif de nous diviser.
Est-ce que c'était une façon de tirer la sonnette d'alarme, monsieur le ministre?
Madame, s'il vous plaît.
Ce sont des cas isolés, mais il y a des gens qui ont souffert
de
ça.
Madame.
On vous écoute.
C'est une question cruciale. Laissez-moi y répondre de manière claire. Parce que le président de la République, 22 février 2024, il y a presque une année, au cours d'un briefing, il avait dit qu'aucun Congolais issu d'une quelconque communauté ne devrait être stigmatisé. Pour parler, par exemple, de la langue swahili, vous savez qu'il n'existe pas une tribu ou une ethnie qui parle, qui est de souche swahiliphone au sens de la langue du terme. Et que le swahili est une langue qui n'est pas seulement parlée en RDC. Contrairement au Kikongo où nous avons les Bakongo, contrairement au Baluba où il y a des Baluba, contrairement au Bangala, où on a les Bangala, le swahili est une langue qui est parlée par plusieurs communautés en même temps. Et pourquoi, Madame Kelly, écoutez, c'est maintenant qu'on doit nous sortir ces poisons. Pourquoi pas il y a une semaine? Pourquoi pas il y a deux semaines? Le président de la République l'a dit. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Moi, le ministre de la Communication, nous les disons régulièrement. La première ministre l'a répété à Genève. L'abbé Chollet est en contact avec toutes les autorités de ce pays. Mais s'il a des cas avérés qui prouvent qu'il n'y a pas de rumeur, mais qui le partagent, et l'État va réserver la réponse qu'il faut réserver. Lorsque ces communiqués sont signés, alors qu'on ne signe pas des communiqués pour dénoncer la mort des swahiliphones, des jeunes qui ont été massacrés à Goma samedi, alors, il y a une question que nous sommes en droit de nous poser sur l'attitude de l'Église dans les traitements du mal qui se trouve en RDC. Nous condamnons évidemment tous les cas liés à toutes les communautés. Mais lorsqu'il y a des cas d'assassinat qui sont faits de cette manière-là, et que l'Église voit, l'Église est dans son droit de dénoncer. Ceci ne priverait en rien l'Église de jouer le rôle qui veut son rôle dans les cadres du pacte social pour la paix qu'il porte. Donc cette précision doit être claire. Et sur cette question de Swahili, les swahilifones qui seraient violentés ou massacrés, je mets quiconque à défi, un quelconque cas, dénoncez-le. Non pas sur base de vidéos qui circulent sur base des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, je parlais du poisson rwandais tout à l'heure. De la manière la plus ferme, la loi va s'appliquer. Les Congolais sont en droit de vivre en paix dans leur propre pays. Et le président de la République s'est déjà présenté comme le rempart contre la discrimination. Toutes les institutions, y compris judiciaires, sont engagées. Tous les cas qui seront identifiés par un quelconque acteur que ce soit doivent être notifiés aux autorités publiques et une action sera prise parce qu'il est hors de question de porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale en ce moment où le pays en a le plus besoin.
On va prendre cet auditeur qui nous appelle de la ville de Kinshasa. Japhet Eunga.
C'est Japhet Eunga depuis la ville de Kinshasa. À ce qui concerne la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une avancée diplomatique pour la RDC. Mais cette avancée ne pouvait dire que la RDC a engagé totalement la guerre. Mais le gouvernement congolais devrait beaucoup travailler pour trouver une solution définitive. Ma question est de savoir si l'initiative de la SADC et de l'EAC est échouée, est-ce que le gouvernement congolais pouvait accepter la démarche des évêques qui va dans le sens de réunir tous les Congolais alors que d'autres sont considérés comme des traîtres?
Brève réponse, hein, monsieur le porte-parole.
De toute façon, les évêques auront l'occasion de revoir le président de la République pour lui faire le point de ce qu'ont été leurs contacts. Le président de la République en disposera. Ici, nous devons faire le choix entre le bien et le mal. Il faut choisir le camp du bien. C'est le camp aujourd'hui qui défend la défense de l'intégrité territoriale. Le camp qui défend le pays contre le pillage systématique que nous connaissons depuis de longues années. Nous avons fait la démonstration que près de la moitié du budget du Rwanda provient du vol de ressources de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, les camps du mal, c'est les camps qui soutiennent les agresseurs, ceux qui veulent piller, violer et endeuiller. De toute façon, pour ceux-là, il y a une réponse judiciaire robuste qui va arriver au plan national, mais aussi au plan international, au-delà de la mission d'établissement des faits qui partira d'ici de Genève et de la commission d'enquête qui suivra. Les procureurs de la Cour pénale vont arriver en RDC et on va travailler avec la justice congolaise pour y apporter des réponses. Ceci dit, pour tous les Congolais qui pensent que le camp du bien, c'est le camp du Congo, mais il y a de la place. Le président de la République a dit sa disposition. Il n'y a pas, madame, en un moment comme celui-ci, de la place, comme je le disais tout à l'heure, pour la division, pour des intérêts politiciens. Si nous aimons tous les Congos, nous devons nous ranger dans les camps du bien. C'est lui qui soutient nos FARDC, c'est lui qui s'investit nuit et jour pour s'assurer que nos populations sont libérées des occupants, et pour nous assurer que notre pays et notre intégrité est respectée de tous, y compris par notre voisin belliqueux.
Monsieur le ministre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réuni à la cité de l'Union africaine les membres de son regroupement politique, l'Union sacrée de la nation. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été soulevés lors de cette rencontre. Le chef de l'État a annoncé, par ailleurs, la formation, la mise en place imminente d'un gouvernement d'union nationale. Comment cela se fera-t-il et avec qui? Parce que déjà l'opposition, les partis politiques de l'opposition ont déclaré ne pas être intéressés par ce gouvernement dont parle le chef de l'État.
Écoutez, le président de la République, dans le cadre des réflexions qu'il fait justement pour voir dans quelle mesure on fait une plus large coalition pour faire face à la menace existentielle qui s'oppose au pays aujourd'hui, a pensé qu'il était de bon aloi que pourquoi pas avoir un gouvernement d'union nationale pour permettre de gérer toutes ces questions dans l'unité que cela requiert. Ceci dit, il y a des étapes qui suivront au-delà de ce que le président de la République a dit. Il a dit avoir chargé son conseil spécial pour avoir de contacts avec des uns des autres. Ici, il ne faut pas rester dans des postures parce que la question de l'avenir du pays est engagée, de son existence, de la libération des Congolais des occupants est engagée. Je pense que tous les responsables politiques, les moments venus, sont en droit de transcender leurs divergences, de se ranger derrière le commandant suprême pour voir dans quelle mesure on apporte une réponse collective à cette crise. Cela doit être perçu dans ces cadres stricts et je pense qu'il y aura des étapes qui suivront, qui pourront permettre une meilleure compréhension de l'action du président de la République et de son idée de faire un gouvernement d'union nationale.
Françoise, qui nous écrit depuis la ville de Goma au nord Kivu, le chef de l'État campe sur sa décision, pas de dialogue avec le M23. Le M23 campe aussi de son côté sur sa position de ne pas libérer les localités occupées, notamment Goma et Bukavu. Est-ce que vous avez pensé à la population? C'est sa question.
Mais tous les jours, nous pensons à la population. Tous les jours. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette population est prise au piège, en otage par nos ennemis. Parce que nos ennemis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent couper une partie de la RDC. À défaut, ils veulent garder un contrôle économique, politique et militaire de cette partie de notre pays, ce qui est totalement inacceptable. Nous comprenons et nous compatissons au quotidien aux peines de nos populations et nous travaillons à voir comment alléger leur souffrance, la souffrance qui ne se terminera qu'au départ des agresseurs. Vous avez dit tout à l'heure, Madame Kelly, que le président s'oppose au dialogue. Le président ne s'oppose pas au dialogue. Ici, nous nous avons dit que nous n'allons pas dialoguer directement. Non, ça n'aura pas lieu. Mais ici, il faut savoir que dans le cadre de la médiation, les cahiers des charges des différentes parties, des groupes armés, notamment ici spécifiquement le M23, pourra être discuté autour de la médiation avec le président Kenyatta et tous ceux qui s'y joindront. Et à partir de ce moment-là, dès que les discussions seront finies à ces niveaux, les éléments pourront être réversés au gouvernement et le gouvernement pourra voir en ce moment-là comment régler les problèmes. Ici, nous devons rester sur le principe. C'est ce qui avait été prévu depuis le premier jour. Et les présidents de la République aujourd'hui, qui souffrent dans son âme du fait justement de voir ses compatriotes lâchement assassinés en masse, par ceux qui pensent qu'il faut plus vous tuer de Congolais, plus vous devez avoir accès à table, mais comprenez aussi la position du président de la République qui est simplement logique. Ici, les lieux de nous interpeller, nous tous, de considérer que depuis 30 ans, nous faisons face à la même situation et que maintenant, il est temps que nous tous, collectivement, on s'élève pour qu'on se dise plus jamais ça. On a connu ça dans les années 2012, je pense, ou 2013, mais on a connu ça un peu plus tôt encore, et sous des prétextes fallacieux, parce que là, par exemple, vous n'allez pas me dire qu'il y a des FDLR à Goma ou à Bukavu, encore que s'ils y sont, l'armée rwandaise qui opère devrait s'assurer d'en finir, mais c'est des prétextes qui sont ressassés au gré des intérêts.
Mais à Luanda, l'ARDC avait pourtant...
Et je pense que là...
À Luanda, la RDC avait pourtant pris l'engagement de préparer un plan de rapatriement des FDLR, M. Mouyaya.
Écoutez, la question du plan de rapatriement, nous en avions convenu, nous en avions discuté, parce que depuis les débuts de cette crise, le Rwanda nous oppose trois mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire qu'il y a le discours de haine. Madame Kelly, vous travaillez pour Radio Okapi, qui est un média crédible. Je ne me souviens pas de combien de fois vous avez fait de reportages disant qu'il y avait des discours de haine en RDC. Deuxième chose, sur la problématique de réfugiés, nous avons été aujourd'hui avec Philippe Ograndi, qui est celui qui est le numéro un mondial des Nations Unies, qui s'occupe du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les processus étaient en cours, c'est les voisins qui ne s'y présentaient pas. Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette situation... d'agression, la question va se compliquer, mais il est aussi difficile de discuter dans ces conditions du fait des agissements du Rwanda. Le troisième prétexte, c'était la question des FDLR. N'oubliez pas que avant que nos relations ne dégénèrent avec le Rwanda, nous avions deux plateformes de conversation, et sur la question des FDLR, les services des deux pays s'étaient réunis à ces sujets pour dire qu'il y avait à peu près 1400 des éléments qui ont été identifiés. Je dois rappeler que beaucoup ont déjà été rapatriés au Rwanda et ils ont été recyclés pour revenir faire la guerre en RDC. Je dois rappeler que nous avons organisé par le passé au moins 5 ou 6 opérations seules ou avec le Rwanda pour combattre les FDLR. Souvenez-vous de la déchéance du président de l'Assemblée nationale autour de 2010, je crois, du président Vital Kamerhe à l'époque, simplement parce qu'il y avait entrée de troupes rwandaises pour traiter la même question des FDLR. Et donc, vous n'allez pas me dire que, madame, les FDLR se multiplient comme des champignons et que chaque année, ils restent, malgré toutes les opérations que nous faisons avec nous-mêmes ou que nous faisons avec le Rwanda. Donc, c'est des prétextes permanents qui doivent, une fois pour toutes, être finis. C'est dans cet esprit que nous avons élaboré le plan de neutralisation et de désengagement, mais qui n'a pas eu la signature du président rwandais parce qu'il avait un autre agenda. Parce que le jour où, s'il avait signé cet accord, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous, nous sommes pleinement disposés, nous sommes de bonne foi, parce que nous voulons aller à la solution. Que ce soit sur la question du Rwanda d'abord, que ce soit aussi sur la question de groupes armés, y compris les M23. Et donc, nous, nous sommes le premier à vouloir la paix. Mais pour faire la paix, il faut avoir de partenaires qui s'y engagent véritablement, sans hypocrisie, sans prétexte et sans faux-fuyant.
Les auditeurs sont très nombreux, monsieur le ministre, à attendre hein, en ligne pour poser leurs questions. Ça sera difficile de prendre toutes ces personnes qui appellent. On va mettre en ligne très rapidement quelques deux ou trois auditeurs et après vous allez réagir à ce qu'ils auront dit. On va commencer par Gaston Bilambo.
Je suis Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. De prime abord, je voudrais préciser que j'ai trois petites questions à poser au ministre Patrick Muyaya, que je salue en passant. Premièrement, c'est depuis très longtemps que le régime en place et plusieurs opinions attendaient la réaction de l'ancien président Joseph Kabila sur la gouvernance du pays et la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer dans la partie est du pays. Maintenant qu'elle est là, quelles mesures concrètes le gouvernement ou carrément le régime prévoit pour sortir le pays de l'impasse? Deuxièmement, comment le gouvernement analyse cette sortie médiatique de Joseph Kabila et son impact sur la situation politique actuelle? Merci.
Je pense que le ministre Muyaya a déjà répondu à cette préoccupation. Après, Gaston Bilambo, on va prendre l'auditeur de Lubumbashi, Piero Mpiana.
Bonjour, Radio de la Paix. Je m'appelle Chris Pierron Pagna depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Concernant les prélats, rien de concret ne viendra dans l'air de marche tant que le dialogue de Luanda est rejeté par les Rwandais qui nous agressent. Quant à la rencontre de l'Union Sacrée, cette plateforme ne dira jamais le chef de l'État tant que la majorité de membres et sont venus pour le partage du pouvoir. L'heure de l'Union nationale a sonné, bien sûr. Mais quel est cet opposant qui acceptera la main tendue du pouvoir pour la formation du gouvernement de l'Union nationale alors que la Mouka avait proposé le dialogue qui a été refusé par la même dite Union sacrée? Je vous remercie.
Bref, réaction, monsieur le ministre.
D'abord, sur la question de Gaston Bilambo sur la gouvernance du pays, ce serait bien intéressant qu'on éclate un peu la gouvernance sur plusieurs points pour qu'on essaye un peu de constater qu'il y a mauvaise gouvernance, comme cela a été dit par le prédécesseur du président. De quoi on veut parler? On veut parler au plan économique, mais regardez le progrès que nous avons fait au niveau budgétaire. Regardez les niveaux de réserve que nous avons aujourd'hui, regardez tout ce que nous déployons comme intelligence dans la gouvernance minière et ce que cela rapporte. Regardez l'inspection générale de finances qui est une institution qui est antérieure à l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi. Regardez le travail qui est fait dans cet ordre-là. Je parlais de la question de la gratuité de l'enseignement et d'autres projets qui se déploient. Je pense qu'ici, il faut faire attention et ne pas considérer que le président de la République, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, il a trouvé un pays où tous les signaux étaient verts. On ne va pas revenir sur ces débats-là, parce que nous, on ne veut pas regarder ce qui n'allait pas. On veut se focaliser sur ce qui marche. Nous ne disons pas que nous allons régler tous les problèmes, mais nous avons commencé à apporter des solutions pérennes. Et que cette guerre aujourd'hui qui nous est imposée et qui est revendiquée par certains compatriotes est des natures à bloquer plutôt cet élan qui mettait les pays dans une diapason où l'armée devrait monter en puissance, où les services devraient être reformés et où les Congolais devraient être remis au centre. Donc je pense que cela doit être clair. Alors, sur la question de Mpiana, qui parle, rien de concret ne viendra de... Ici, évidemment, il y a une question qu'il faut qu'on se pose sur où l'on situe la démarche de prêtre par rapport au processus de Senko, par rapport plutôt au processus de Luanda et de Nairobi, c'est une question qu'il faut bien se poser. On verra la suite que réservera les garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions après avoir entendu les différentes propositions qui sortiront de prêtres après leur consultation. Sûrement, s'il y a des points positifs, je pense qu'à son, de son point de vue, il tirera les conséquences et voir comment donner une réponse. Mais quoi qu'il en soit, spécifiquement pour la crise dans l'Est, les cadres pour sa résolution a déjà été établi et aujourd'hui les deux médiateurs qui doivent appuyer le président Uhuru ont été désignés et donc il y a des questions qui se traiteront à ces niveaux-là et les restes dépendra justement de comment les prêtres vont articuler leur démarche et de comment au niveau institutionnel représenté par les présidents de la République on appréciera s'il y a des aspects positifs qui peuvent concourir à la cohésion nationale, etc. Pourquoi pas, pourquoi ne pas y recourir? Et donc ici, je rappelle que le président de la République est un homme disposé pour la paix, et je suis sûr que c'est le premier qui veut la paix plus que tout le monde pour s'assurer qu'il a la sérénité qu'il faut pour gouverner ces pays et donner des réponses à plus de 100 millions de Congolais.
Très rapidement, monsieur le ministre, par rapport à la question de Piana, toujours Piana sur le gouvernement d'Union nationale, les SIDA avaient proposé un dialogue rejeté par l'Union sacrée. Aujourd'hui, cette Union sacrée revient pour la formation d'un gouvernement.
Écoutez, le président de la République a lancé une idée, une réflexion. Le président de la République a dit qu'il y a des contacts qui se feront autour de son conseil spécial et sûrement de lui-même. Les moments venus, il en tirera les conséquences. Comme je disais tout à l'heure, ici, il ne faut pas rester dans des postures politiques parce que le temps ne s'y prête pas. Ici, l'enjeu premier, c'est de préserver l'intégrité du pays. C'est de libérer nos territoires occupés de mains des agresseurs et des occupants. C'est de s'assurer que nous protégeons les droits les plus élémentaires de nos compatriotes aujourd'hui qui sont assassinés en relais de force, violés par les forces occupantes. C'est un enjeu qui est particulier. C'est un moment grave et qui nécessite des différents responsables politiques, la transcendance. Parce qu'ici, il s'agit du pays et des Congolais.
Monsieur
et donc,
ministre,
je ne voudrais pas m'étendre dessus, mais je voudrais rappeler le contexte de la gravité et la nécessité pour tous ceux qui sont en politique et qui aspirent au meilleur du Congo de se joindre justement au président de la République dans ce qu'il va initier pour qu'ensemble, nous soyons sûrs que nous n'avons pas fait une économie d'intelligence, en tout cas des Congolais qui veulent que les pays recouvrent sa paix très rapidement.
Alors, nous sommes à la fin de l'émission, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, mais il y a la question d'un auditeur qui nous écrit depuis Bukavu au sud Kivu, qui dit pourquoi on n'a pas senti cette mobilisation depuis la prise de Bunagana. Ça va faire 3 ans maintenant. Est-ce que les Congolais de Goma et Bukavu sont plus Congolais que ceux de Bunagana? Très rapidement.
Écoutez, les Congolais de partout, tout à l'heure, quand je parle de Congolais qui sont sous occupation, en premier, ce sont ceux-là. Et donc, la préoccupation est restée la même. Et je dois vous dire que nous sommes dans les processus de Luanda depuis le mois de juillet 2022. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de mauvaise foi en face, on aurait déjà réglé ces problèmes depuis des longs mois. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous travaillons assidûment pour que nous puissions régler ces problèmes une fois pour toutes et pour que tous les Congolais se sentent bien dans leur pays et pour que les agresseurs restent dans leur propre pays et pour que les traîtres qui soutiennent les agresseurs renoncent à ces projets funestes, se répandent et s'engagent à œuvrer pour la patrie parce que quoi qu'il en soit, eux, comme leurs parrains, ils ne réussiront jamais leur objectif. En termes de division de ce pays ou en termes de consolidation d'une influence étrangère. Ça n'arrivera pas. Le président de la République est debout et tous les Congolais, parce que dans ce que le président de la République avait dit, il avait dit les Congolais devraient être debout. Tous les Congolais, botelema bisika bozali, oezali kamwa mabele. Et nous allons être plus précis dans ce que j'ai dit tout à l'heure. parce qu'il nous faut un front populaire et c'est cette population qui sera le rempart pour notre intégrité du territoire et pour notre souveraineté, parce que les Congolais ne se laisseront jamais dominer par les Rwandais avec la complicité de certains Congolais. Patrick, donc nous allons nous lever, dire non, et laisser vivre en paix notre pays et tous les Congolais.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, merci d'avoir pris part à cette émission spéciale, Dialogue entre Congolais. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine, Guy Maté, Freddy Bikumbi, Bertin Kassiema, Mimi Kindou qui était à la mise en onde, ainsi que Debs Vita. Merci à Clément Chimanga, Jonathan Fonani et Hervé Voka qui est derrière les caméras. Présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.